je m'appelle Daniel Billon, je suis un authentique Brignoganais. Ça me donne pas de prérogatives pour parler, mais j'ai été en situation de voir beaucoup de choses. Et donc c'est un peu ce côté mémoriel là qui au fond un bar, hôtel, tout ça, c'est un lieu de discussion, d'échange, et donc ça m'a permis d'entendre et de voir pas mal de décisions.
Et comme il est modeste, je vais prendre la suite, parce qu'en fait donc il est brignoganais, ses parents ont tenu l'hôtel des Bains pendant je ne sais combien d'années.
Oui.
Il a pris la suite avec son épouse pendant
sept
ou huit ans.
Et puis j'ai essayé de trouver une succession, mais ça s'est fait, mais ça n'a pas tenu. La succession n'a pas tenu.
La famille Billon était très dure à remplacer.
Et Maurice
Alors moi c'est Maurice Estévenon, je suis né en 1944, et depuis 1950, je passe mes vacances à Brignoganes.
Ça vous donne des droits quand même.
Quand j'ai fini mes études d'ingénieur agronome, j'ai fait mon service militaire et je me suis installé comme expert agricole à Brest d'abord et Lesdevin ensuite.
Oui,
et
c'est
vrai.
Je me suis installé
définitivement à Brignoganes.
C'est arrière-grand-parents ou grands-parents?
Mon grand-père.
Est arrivé quand même en terre de mission pour enseigner...
Le français au breton. Mais effectivement, mon grand-père, il est venu de Lozère, de l'école normale de Lozère, à Mende.
Mende,
oui. Pour apprendre le français au breton ici.
Fait partie aussi de l'arrivée du chemin de fer, les gens arrivaient.
C'était après le chemin de fer, c'est 1920 le chemin de fer, je crois.
Ah oui, c'est vrai que là...
1920, oui. Si.
Il n'était pas encore là.
Il n'était pas encore là.
Ah mais l'autre jour, parlant du chemin de fer, est-ce que vous êtes vous êtes arrêté à la gare, ce qui est devenu notre pharmacie maintenant, enfin bon... Vous êtes arrêté à la gare de Brignoganes. Moi, un peu avant que la pharmacie n'y vienne, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé là 5 minutes sur le parking et je me disais, mais c'est remarquable, c'était prévu qu'ils aillent jusqu'à Kerlouan. Et l'influence de à Brignoganes a fait que, hop, ils ont tourné tout de suite à droite, ce qui a valu, je comprends mieux maintenant, que Kerlouan avait quelques réminiscences, etc. Et quand vous réfléchissez bien, ça a duré très longtemps, parce qu'après, quand ils ont construit l'école, justement, Scolar-Groisse,
oui.
À Kerlouan, Scolar-Groisse, c'était un architecte très original, et la partie actuelle, n'est-ce pas supposé, mais devant, il y avait comme un tender, c'était comme une locomotive et un train. C'est le train qu'on n'a pas eu. Je vous le fais en maçonnerie. Et c'est assez visible quand on veut bien, avec un peu d'imagination.
Ouais.
Mais c'était... Donc le chemin de fer est arrivé ici. Au départ, ça a été un attrait... ça a été, au fond, l'attrait de méthode un peu anglaise, c'est-à-dire on voulait passer quelques mois d'été ou quelques semaines d'été, je ne sais pas, en bord de mer. Quoi. Donc ça a été les l'an dernier... Hein. En fait, Brignoganes, c'était les villas des...
C'est la station balnéaire des Landerneaux.
Toute
la famille Kergent et tout ça, c'était les pharmaciens de Landerneau. T'avais les Perrons, les tissus de Landerneau.
Oui, oui.
T'avais les Bazin aussi, Landerneau.
Oui, oui.
Enfin, c'était...
Mais alors, ils avaient construit, je ne sais pas s'ils étaient architectes ou entrepreneurs architectes. Moi, j'ai toujours entendu parler des maisons Lemeur.
Lemeur, c'était un architecte entrepreneur, ça.
Voilà, c'était le type, c'est le style qu'on a dans pas mal de maisons typiques.
Sur Brignoganes. Et puis Brignoganes, ouais.
Pierre.
Un peu carré.
Pierre, de l'entourage en petites briques rouges, beaucoup de bois.
Oui,
on
se
retrouve ça. Certaines maisons à Brignoganes n'étaient pas du tout typées bretons.
Bretons,
hein.
Non.
Il y en a beaucoup, mais... Et donc, celles-là, c'était les maisons des... Les villas, ils appelaient, parce que les Landernéens venaient dans leur villa. Ça date des Romains.
Et s'ils avaient construit s'ils avaient construit au bord de la mer, dans des endroits inaccessibles, c'était pas aux gens de la commune de leur payer des routes. Ça, c'est dans le, oui. dans le truc sur les écoles.
Oui, je me, hein? je me sou... ouais. oui, et puis je me souviens aussi que certaines maisons, il fallait les alimenter en électricité. Oui. Ça faisait X poteaux que la mairie devait avancer. Enfin, il y a eu des conseils municipaux auxquels notre ami a fait partie. Après, même antérieurement.
Avant moi, il y en a eu d'autres.
Qui créaient, c'était chaud. Oui. En fait, on a le touriste baigneur n'était pas bien le bienvenu, hein, pour être très honnête. Ouais. Quand on pense au stade où nous sommes actuellement et ce qu'a été la force et le poids
du clergé dans ce pays ici,
c'est absolument incroyable, incroyable. Comme tout le monde, je pratiquais la religion, fort contraint et forcé, mes parents pas du tout. Mais bon, et mon père était copain avec. Enfin, copains, à chaque fois qu'il y avait des religieuses, parce qu'elles étaient aussi infirmières, les religieuses, hein, institutrices, etc. Alors, il y en avait qui venaient souvent pour ma grand-mère. Et il était toujours copain avec les religieuses. Et puis alors, il allait au marché de l'Esnevin, où il n'y a pas grand-chose à faire d'ailleurs, mais enfin, tous les lundis, les religieuses lui avaient demandé d'aller à la retraite, c'est-à-dire
le cloître
des religieuses, parce qu'à la retraite, on fabriquait les hosties pour la communion. Alors, c'était deux boîtes de fer, des boîtes de pyrogourmand, des sucettes pyrogourmand. Alors, il y avait une boîte qui était pour les grandes hosties du curé, et puis une boîte qui était pour le bas peuple. Et mon père, ayant pris un pot avec ses copains, ce qui avait duré un peu plus longtemps, moi, j'étais resté dans la voiture et j'avais commencé à manger. Et j'avais réussi à ouvrir la boîte, une boîte. Je commençais à manger, mais les grandes, quand il est arrivé, il m'a dit « Alors, fais pas ça, prends les petites, ça se verra pas.
» Enfin, bon.
Il était plutôt...
Et est-ce que toi, tes parents étaient là avant-guerre?
Oui. Oui.
Est-ce que... Moi, j'ai jamais connu le bistrot qui était à côté du cadet de sauvetage.
Oui, alors ça, c'était Antoine.
Antoine Alégouette. Oui. Qui après tenait... Bah,
toujours dans l'esprit de Balmer. Et alors, comme... Moi, je trouve ça remarquable. Je ris avant de... Parce que j'en ai parlé des fois. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Et à côté de la maison des câbles... On appelait ça la maison des câbles.
Bah oui, il y avait un câble qui arrivait là.
Sur la plage du Chardon Bleu, il y avait le cadeau de sauvetage, il y avait la maison des câbles, et il y avait un homme très entreprenant, un type très sympa, qui s'appelait Alégouette, et qui était brestois. Ouais. Et il avait monté l'été dans une baraque, enfin c'était quelque chose... C'est comme un cabanon corse, quoi. Hein. Et il avait monté, et pour que ça fasse... très, pas couleur locale, mais très british, très in, c'était Antoine's Bar.
Antoine's Bar.
Et donc, Antoine, c'était marqué sur les planches, Antoine's Bar. Et bon, là, ça s'invente pas, hein, et on était devenu une seaside resort.
Moi,
le comble, c'est que, pour être plus encore en avant, il avait mis, ça fait mettre en dessous, et c'est écrit 5 o'clock à toute heure. Ça, je trouve ça remarquable.
Ben, il avait un bon bistrot à Brest,
le Colbert.
Oui.
Brignogan, à deux, trois époques, et celle du démarrage essentiellement, il y a tout de suite eu des établissements hébergeant des touristes. On va appeler ça des hôtels, si on veut. Et à ce moment-là, on a eu jusqu'à 5 hôtels qui correspondaient à... une centaine, 150 chambres presque. Hein. Donc c'était entre guillemets, une puissance assez intéressante. Et chaque hôtel avait un peu son, je dis pas son classement sans doute, officiellement, mais un peu son style. Hein. Alors par exemple, l'Hôtel des Bains, par la situation géographique, c'était un peu, j'allais dire, la tour de contrôle. Hein. Si ce n'était pas les gens qui y résidaient, c'était toutes les réunions avant de partir. Par exemple, avant de partir en boîte, ils avaient tous un passage là. Et c'était assez marrant parce que ça se situait aux alentours de 10h30, 11h, et hop, ça repartait tout d'un coup.
Et
Mais c'est parce qu'il y avait une multitude, c'était comment, pluridisciplinaire.
Bah, il y avait tout.
T'avais bal.
Puis en plus, moi je me souviens, au bar, il y avait tout le monde.
Aussi bien
les gens du pays que les baigneurs. C'était pas.
C'est bon.
Chez Rennes, il n'y avait que les gars du pays.
Oui, c'est vrai.
Et encore, pas tous.
C'est vrai. Mais en fait, les gens. Oui, c'est parce que les gens recherchaient ça. Peut-être pas. Mais il y avait cette osmose-là.
Ah oui.
Il y avait un mélange d'absence de hiérarchie. Si l'hôtel avait un mariage ou. Une manifestation comme ça, ça finissait toujours par un bon signe. Après, bon, la spécialisation est venue de la boîte de nuit, le nightclub, appelons ça comme on veut. Enfin, voilà. Et donc, il y avait des dancing.
Mais vous, il n'y avait pas de dancing à l'hôtel des Bains.
Non, il y avait.
Vous faisiez bal de société. Quand il y avait une fête, moi je me souviens du bal du club nautique,
c'est ça.
Mais il n'y avait pas tous les soirs.
C'est après
Moréol, c'était Madame Pecard qui a. C'est elle qui a fait ça, mais vous ne faisiez pas ça. Quand j'étais jeune, il y avait chalet. Il n'y avait pas encore Chalet des Roses.
Le Chalet des Roses, c'est après. Oui.
Après, il y avait surtout Castel-Régis.
Alors là.
Castel-Régis, c'est des tas de choses. Hein. Ça a été,
un praticien.
Ouais, mais... Ça a été d'abord. Enfin, moi, je l'ai connu essentiellement quand j'avais 17-18 ans, dancing.
Voilà, une boîte.
Boîte de nuit.
Oui.
À l'époque, je ne connaissais pas le restaurant, c'était pas dans mes moyens.
Je vais te dire
pourquoi. C'était le bistrot et la boîte après.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il a acheté ça, Plos, tout était à refaire et donc.
Ah oui, ils ont tout refait.
Alors bon, ça a été assez difficile, mais c'était des gens laborieux, courageux. Bon. Et la boîte, salon de thé et boîte, ouais. C'était l'ouverture, j'allais dire, qui faisait rentrer un peu de monnaie, un peu d'argent. Parce que pour le reste, c'est lourd, hein, un restaurant.
Hôtel,
il
n'y
avait pas énormément de chambres, mais il en créait tout le temps en pavillon. Enfin, ils sont très, très dynamiques. Et puis il n'a pas arrêté. Moi, je l'ai eu en face de moi un jour, il me tenait la thèse suivante, c'est fini, je ne construis plus rien. Parce que
c'est un constructeur, lui. Hein.
Il avait un maçon toute l'année. Hein, donc, on lui trouvait du travail. Il avait à peine dit ça que la semaine après, il creusait la piscine.
Ouais.
Il ne construisait pas, mais... Donc, c'était des types tout le temps... Alors, il y avait, quand il a pris ça, il y avait tout à revoir, rien ne tenait debout.
Par contre,
c'était de l'emplacement.
Un emplacement magnifique. Hein.
Ouais, ouais. Il y a eu là-dedans pendant des années. tu te rappelles ?
L'Armée Rouge.
Vous avez connu ça ? Oh, c'était remarquable. Ouais. C'était une famille de rouquins. Ils étaient 14 ou 15 enfants.
Survivants, il y en avait eu 18.
Ah oui, et puis ils étaient. Alors, c'était organisé d'une manière. Ils étaient là toute l'année, je crois. Et alors, sur les enfants, chacun avait son activité. Quand ils faisaient les courses, c'était pas tous en même temps, mais il y en avait un qui s'occupait du pain, l'autre qui s'occupait de la viande. Alors on voyait passer l'armée
rouge.
Mais enfin, c'était sympa. Et ça, c'était une maison qui avait été construite par la comtesse
de
Rodelec du Porzic.
Mais je crois que... cette armée rouge là avait des liens de parenté avec de Rodelec.
Ah oui, c'est possible. L'établissement dans lequel je vivais avec mes parents était aussi l'arrêt officiel des cars. Et alors le car avait une énorme utilité parce que d'abord les chauffeurs étaient tous sympas, hein, faut dire les choses. Donc si par exemple un commerce avait besoin de prendre quelque chose, un magazine, quelque chose ailleurs. Oui. Et donc lui, il apportait souvent un paquet de journaux au bureau de tabac. Oui. Et on avait commencé ces années-là le transport scolaire, un peu mélangé avec le transport des passagers normaux. Parce qu'il y a eu une période où il n'y avait aucun transport scolaire. Hein. Les gens, les gamins, ou ils n'allaient pas à l'école, ou ils allaient en pension.
Ils allaient
en pension, puis c'est tout. Mais alors bon, le transport scolaire ayant commencé, Hervé gare son car devant l'hôtel des Bains, puisque c'était le lieu de prise de billets. Et il va transporter son paquet de journaux à côté. Il reste quelques gamins à l'intérieur, ah oui, une bonne dizaine. Et à ce moment-là, moi j'étais là, le car avance, commence à avancer. Vous avez devant vous quelqu'un qui a arrêté un bus. Hervé est arrivé, histoire sans parole, j'ai quitté ma place, il a pris la sienne, il a continué. Je me dis, je lui ai sauvé sa retraite. Parce que... Et chez Bihan, c'était sérieux. Et puis alors lui, il était toujours visé, parce que Hervé avait beaucoup de qualités, mais il était un peu cosse, enfin bon.
Et je vais te raconter une petite anecdote sur Hervé.
Oui.
Dans le car, tu vois, tu as le moulin de cire, là, et puis après, en montant, il y a une dame qui dit « Vévé, arrête ton car, non ? Le petit a envie de pisser !» Et alors, Vévé arrêtait son car et on allait faire pisser le petit.
Il est certain qu'on lui avait donné Landerneau, comme c'était la ligne la plus facile. Et puis Landerneau, c'était officiel aussi. Je vais dire quelque chose que les gens ne savent pas. C'est que Landerneau, la ligne Brignogan-Landerneau et vice-versa, avait remplacé le petit chemin de fer départemental. Ça veut dire que de Landerneau à Brignogan, vous pouviez avoir un billet SNCF. Il y avait des gens qui quittaient Paris. C'est quand même un snobisme de qualité.
Comme Roscoff maintenant.
Oui, vous quittiez Paris en disant « je veux un billet pour Brignogan-Plage », ça devait marcher. Oui. Et de Brignogan, pareil, puisque mon père distribuait des billets SNCF.
Il y avait les Carbillons, mais il y avait aussi les Carsatos.
Ah oui, oui. Alors là, c'est autre chose. Ça, c'était Pierre Kerbrat. Oui.
Et qui logeait dans la petite maison où mes parents louaient pendant l'été. Et c'était super, parce que moi, mes parents étaient instits à Coatodon, à Guipava.
Oui, bien sûr.
Et le car s'arrêtait devant l'école.
Oui, oui, oui.
Donc, quand on partait en vacances, mes parents chargeaient le matelas sommier sur le car, devant l'école de Coatodon, et il arrivait devant la maison à Brignogan, on déchargeait, c'était impeccable. Il y avait un inconvénient, il ronflait énormément.
Et bien le car ou le chauffeur?
Marcel Kerbrat, il ronflait énormément.
Oui, c'est possible.
Et il était au sous-sol, nous on était au premier étage, et ben on avait musique toute la nuit.
Il y avait deux garages,
et un avec une pompe. Chez Vacani, il n'y avait pas de pompe.
Qu'est-ce qu'il y avait comme... Ah oui, les activités, alors les activités saisonnières. Pour la pêche, tout ça, c'était pas trop... Non. C'était encore Kerlouan qui avait une coopérative. Et ils y allaient, coopérative. Oui. Mais autrement, les épuisettes, on avait au centre... Ah oui, ce qui était très important, c'est d'avoir une pharmacie. Ce qu'on vient de perdre, là, c'est une cahier. Pour des gens comme nous, c'est un peu catastrophique.
À nos âges.
C'est un... Oui.
Non, on peut quand même aller jusqu'à la gare.
Non, je veux dire, oui, je suis bien d'accord. Mais c'est significatif quand même. Ouais. Il y a un petit côté récession.
Et puis, récession. Le pharmacien faisait partie de l'intelligentsia brignoganaise.
Ah oui, si on veut.
Surtout,
si on
enfin,
veut.
C'est peut-être pas le qualificatif non. qui lui convient au faire
on
un priou.
On a eu que des originaux, là.
Mais
le premier pharmacien était roman. Ah oui. Mais après, bon.
Je n'ai pas connu le premier pharmacien.
Ah ben, Rajot, je crois.
Il était aussi dans le local à Priou.
Oui.
Elle a commencé là, la pharmacie.
Oui. Oui.
Ah, d'accord.
Et à côté, il y avait une Mademoiselle Alexandre,
Mercerie.
Qui était une.
Et dont c'était quoi, son neveu qui a pris la suite, qui lui était.
Ah non, c'était. Elle a vendu à Le Bars. Oui, qui était Jeannot Le Bars. Alors là, moi j'ai deux anecdotes remarquables parce que Jeannot pratiquait beaucoup le petit rouge.
Ah oui,
mais il en pratiquait. Mais... Le problème, c'est qu'il en pratiquait souvent.
Oui,
quoi. Oui. Et alors. Et un jour, Brignogan, bon, on n'a jamais su de quel film, on a pendant une quinzaine de jours une équipe de cinéma mais alors venant de Paris, hein, pas de la gare de Plouvillours, avec des acteurs comme Pierre Brasseur. Et alors, Pierre Brasseur, bon, c'était bien connu, il était en fin de carrière, hein. Et c'était connu que il était cornaqué, hein, parce qu'il buvait trop. Il y avait une expression qui disait brasseur de bière en fils. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, Pierre Brasseur, il a connu tout le monde. Il a connu tous les hôtels. S'il y en avait eu 10, il les aurait tous faits. Ouais. Mais il n'était pas désagréable. Mais il buvait trop. Mais alors, quand il est tombé avec Jeannot, qui buvait comme lui, je suis tombé sur un truc remarquable. Parce que alors quand il avait des lubies, Brasseur, c'était un jour, il arrivait, il voulait avoir les mêmes bottes que le gars qui est là au bar. Et alors, évidemment, pour s'en débarrasser. Et puis alors, il avait toujours il était cornaqué par un type. Il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, voyez ce monsieur-là à côté, il vend des bottes. Alors, on a fait les 50 mètres pour amener Pierre Brasseur chez Jeannot le bar. Et puis là, il y avait le truc. Jeannot le bar, il s'en est pas occupé. Le Brasseur s'est assis sur un siège et il était là, il monologuait, il faisait peut-être son texte, peut-être, hein, c'est possible. Et à un moment, je voulais être curieux, j'ai regardé, et à un moment, il disait... Mais dis donc, toi, je te parle. C'était le client qui parlait au commerçant. Oh, c'était remarquable. Nous avons connu, par exemple, des commerçants des Neuviens ou des commerçants, ou même, je pense, par exemple, marchands de fruits dans les Léostes qui venaient se. Bon, je ne sais pas ce qu'ils faisaient l'hiver.
Qu'est-ce qu'ils faisaient l'hiver? Peut-être qu'ils faisaient rien, ils gagnaient assez de sous pendant.
Après, oui, c'est
parce
possible.
Parce qu'il était un peu. C'était lui, Targas, non?
Oui.
Hein?
Mais
c'était
en fait,
son surnom,
oui.
Targas.
Et en fait, il était originaire de. Il avait la parenté dans le coin, quoi. Ouais.
Et mais il occupait. Tu vois, là maintenant, c'est un magasin de bibelots, vêtements, qui est juste à l'angle. Souvenir juste à l'angle de la rue Pont, rue Goulevin-Pont, et la rue de Nautier.
Il
occupait ça, fruits et légumes.
Après, il y a eu les Lesneuviens qui venaient. Il y a par exemple le pâtissier, Beyer. Il y a eu aussi quelque chose, donc ça, c'était preuve qu'il fallait avancer techniquement, des photographes. Et des photographes qui étaient à la fois. Preneur de vue, mais aussi tout le matériel qui avait avec, quoi. Alors, je ne sais pas si
celui de Lesneuvin, non?
Oui. Hein, il y a eu Lesneuvin, il y a eu l'an dernier, je ne sais plus trop quelles étaient les origines, mais ils étaient présents. Mais quand on remonte la rue principale, la rue de Général de Gaulle maintenant, moi, je n'ai pas les numéros des maisons en tête, mais j'ai les emplacements
de chaque
activité commerciale ou semi-artisanal, etc. C'est intéressant. Le premier, quand on rentre, la première maison, qui est une maison, enfin, c'est une maison basse, là, il y avait un monsieur qui faisait il travaillait le ciment, il faisait des briques, et il faisait du faux marbre, du stuc, des choses comme ça. Et j'avais eu, gamin, on voyait un peu la fabrication de tout ça. Après, il y avait tout de suite... les transports et les gouettes qui étaient spécialisés dans le transport du Gouémont.
Oui.
Ils avaient des camions qui transportaient le gouet. Et puis après, toujours sur ce trottoir, il y avait deux frères, deux menuisiers, Hulin. Allez. Et ils s'étaient disputés et ils avaient deux petites menuiseries chacun. Parce que, bon, il y a eu des problèmes de famille que je ne connais pas. Allez. En face, on a eu le premier notaire de Brignogans. Qui s'appelait Cudennec. Cudennec était avant-guerre.
Moi, je connaissais que...
Après-guerre, il y a eu...
Calvès.
Il y a eu Calvès, et puis après, il y a eu Morvan.
Voilà.
Mais et après, il n'y a plus rien.
Tu oublies un commerce, à mon avis.
Madame Quéré. Ah oui, Madame Quéré. C'était la femme d'un chauffeur de car, qui alors se spécialisait un peu dans... Je n'allais pas dire le rustique, parce qu'elle n'aurait peut-être pas été contente, mais enfin, le truc, le costaud, quoi, là... La toile de Cabic, il y avait plus de 40 commerces. dans certains cas, c'était des commerces, j'allais dire, à doublon. Il n'y avait pas un mareyeur
qui faisait
n'avait
pas
le bistrot à côté. Ouais. Ça faisait partie du lot, ça.
Il n'y avait pas. Il y avait que chez Creff.
Chez Creff,
ils vendaient de la matelle de pêche, des avenots, des chaussons.
Dans la rue de Nautir,
dans la rue de Nautir, et il y avait bistrot en même temps.
Oui. Ça, c'était plus ou moins, j'allais dire, enfin, c'était légal, mais enfin...
Et puis, il y a celui qui s'appelle toujours le Clandé.
Le Clandé, ça, c'est le café du commerce.
Le café du commerce, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il ne payait pas sa licence.
Je ne sais pas.
Il n'avait pas de licence.
Non, j'ai l'impression que, familialement, il y a un moment, et personne, mais c'est un peu ce qui se passe actuellement, personne pour reprendre, donc c'était plus ou moins fermé. Oui. Mais entre amis, on rejoignait par la porte de travers, quoi. Et ça, c'est assez remarquable de voir qu'il y avait, alors si on entre dans les commerces, il y avait plusieurs commerces de laine, comme on dit, laine, et plusieurs, mais deux bouchers, deux boulangers, voilà.
Trois
marailleurs, oui, puisque Edmond a été marailleur aussi.
Edmond, Jo et Daniel.
Oui, Madame Prémel à l'époque, elle s'appelait
Prémel.
Et donc ça faisait partie, à la limite, de l'activité permanente, quoi.
Et le bistrot avec la lait de boule chez Rennes à Baléa.
Ah oui, alors là...
Avec la lait de boule en terre, avec les boules plombées.
Voilà.
Aux allées de boule, mon père allait jouer aux boules quand il n'allait pas jouer aux cartes avec Fell ou d'autres. C'est un ancien boucher, Couillou Kézek. Et il s'asseyait, tu sais, la lait de boule, tu vois comment c'était. T'avais une petite rambarde. Il avait... un genre d'éléphantisme, il avait des roubignoles énormes et qui pendaient sans pantalon. Alors quand il était assis, c'est pour ça qu'on l'appelait couille ou crusec. En breton, ça veut dire couille de cheval.
Oui, ça aussi, ce qui était remarquable, mais ça c'est pour tout le pays pagan, c'est les surnoms. Et les surnoms qui viennent, aussi il y avait des mariages consanguins, il y avait beaucoup de choses, donc on différenciait les noms avec un surnom, mais c'était assez remarquable. On a dit à un moment, est-ce qu'on a eu un maire là qui s'appelait le Père Pont, qui était inamovible, 40 ans, je sais pas moi. Et un jour, alors le Père Pont, il avait un côté Pépone d'ailleurs. Hein.
On l'appelait Pépone.
Et donc, il un jour, la maréchaussée de Lesnevin arrive et lui dit, Monsieur le maire, on voudrait rencontrer un de vos administrés qui s'appelle Le Guyadère. Alors, il réfléchit 30 secondes, il dit, vous pouvez chercher dans la commune, il n'y a pas de Le Guyadère. Enfin, je dis ça avec l'accent peut-être du midi. Et Le Guyadère, c'était le patronyme du gars qui était toujours appuyé, qui s'appelait Pithiot.
Ah, Pithiot.
Qui était sous du matin au soir, et qui était appuyé souvent sur le poteau, qui était là en face de lui, et personne dans le village savait qui s'appelait Le Guyadère, qui était un très beau nom, ça veut dire le tisserand.
Il y avait deux coiffeurs.
Oui,
il y avait un et demi. Oui, il y avait l'artiste capillaire.
Ah ben oui, et lauréat national.
Lauréat national, oui.
Jean Daniel, qui a été maire pendant quelques temps.
Moustache, je ne sais pas. Mais attends, Jean Daniel, qu'est-ce que c'est sur le... J'ai vu, c'est... Oui, haute coiffure, lauréat national, champion de France 1957, Grand Prix Bretagne-Anjou.
Et en fait,
il avait un mannequin attitré.
Oui.
Tu m'as dit que je me trompais. Moi, je croyais que c'était la fille de Gwen.
Non, c'est la fille Georgil, enfin, dans la famille Georgil. Et puis, il y avait aussi Rémi Ampoudec. Et puis, il y avait la fille du marchand de vin.
La fille de Gwen.
Parce qu'il fallait des têtes.
une belle blonde, la fille de Gwen.
Oui, d'accord.
On disait même que ça faisait plus que mannequin.
Il y avait même un accordéoniste, tu as connu l'accordéoniste,
Georgil. Un peu Georgil.
Qui s'est tué en portant sur son vélo moteur ou son scooter. Et puis à un moment, l'accordéon l'a... Je ne sais pas si c'était un coup de vent.
L'autre coiffeur, il était Avant chez Léo Vacani,
oui, dans la petite rue
Déjeuner. Petite rue Déjeuner derrière. Là. Et il ne faisait que coiffure homme. Hein.
Voilà.
On a oublié une autre activité brignoganaise,
oui.
La brasserie Bazin.
Ah ben, et les deux marchands de vin. Ah ben
ah oui,
ça il faut savoir. Ça,
oui.
Les deux marchands de vin avaient. Enfin, le plus important en vin, c'était le Gouen. Mais Bazin avait aussi son coupage. Ils faisaient leur coupage. Parce qu'à l'époque, on avait des vins qui venaient beaucoup d'Algérie, etc.
Et puis,
donc, il faut aller équilibrer tout ça. Mmh. Autrement, c'était trop fort, bien sûr. Mmh. Et Bazin faisait sa limonade.
Sa limonade et sa bière.
Oui. Le Gouen, c'était le Saint-Benoît.
Ouais, oui.
Comme chacun sait, comme le vin d'Arbois, plus on en boit, plus on va droit.
Le velours et l'estomac.
Oui, non mais ils avaient, et c'était assez remarquable, de ce que ils distribuaient dans une périphérie. 30 km, quoi.
Ah oui,
20,
oui,
20
oui.
30 km.
Ils faisaient les campagnes. Et
évidemment, on a 180 degrés et la mer, on n'y peut rien.
Il y avait le Saint-Benoît bleu et rouge.
Oui, ben à 14 degrés, c'était le rouge.
Oui,
oui, oui, oui, oui.
Le bleu ne faisait que 12 ou 13.
Oui. On pouvait vivre en autarcie, en fait, quand on avait
mais, Daniel, tu te souviens, moi je ne me souviens pas, ce qu'il y avait à la place de la mairie actuelle. Il n'y avait pas une vieille construction.
Si, si, il y a eu des ruines.
Des ruines.
Mais
ah ouais,
c'est une vieille histoire que je tiens, pour l'avoir entendu, très clairement. La mairie, nous, à l'Hôtel des Bains, on estimait qu'elle était à notre défaveur, parce qu'elle nous a enlevé de l'espace. On a eu avant quelque chose qui n'était pas très reluisant, c'était une maison en ruine. On aurait pu dire, c'est pas très esthétique, mais enfin là, c'était d'une tranquillité absolue. Et puis alors, il y avait des murs, bon, il y avait tout ce qu'on fait. Et à un moment, le propriétaire, enfin le décart, annonce, je ne sais pas s'il était à la fin d'un enterrement, quand tout le monde se retrouve au bistrot, ou à la fin de, je ne sais pas, il annonce qu'il est en train d'acheter les ruines en face. Et comme le maire de l'époque, c'est-à-dire le fameux père Pont, n'aimait pas beaucoup, enfin ils ne s'aimaient pas l'un l'autre, le père Pont, il a dû, dans sa moustache, il a dû se dire, lui, il ne va pas l'avoir. Et donc il a cassé la vente pour faire une mairie poste.
Mais avant il y avait aussi Jean-Louis Le Guen qui allait livrer à l'Esnevin au marché. Il
oui,
allait
oui,
à,
oui.
avec son cheval et sa charrette.
Oui.
Et puis là j'ai une histoire aussi. C'est il avait pris Suze Breton. Tu connaissais pas Suze Breton.
Non.
Tu vois chez Falin, à côté
oui,
de chez moi.
Oui.
Ben une ferme derrière. Elle avait deux écuries et quand faisait de la balade à cheval,
oui.
On logeait les chevaux là.
Ah d'accord.
Et Suze Breton prenait la charrette de Jean-Louis pour aller à l'Esnevin le lundi.
Oui.
Et puis Jean-Louis, il avait un étalon hein, parce qu'il faisait la monte.
Ah oui oui.
Il était étalonnier.
Ah oui.
Et puis arrivé un peu avant l'Esnevin, il s'arrêtait, il sifflait et le cheval pissait. C'était un rituel.
Même...
Et puis,
c'est quand même formidable.
Le cheval est
oui, mais là.
Et puis alors, un coup, avec Suze Breton, Suze voit ça et on a ça, Jean-Louis, alors. Tu voudrais pas essayer avec moi? Je fais des rédemptions d'urine aussi. Alors Suze va derrière le talus. On voit la coiffe qui se baisse. Et.
Mais ça peut aider. Hein. Ça peut
non,
aider.
Mais attends la suite, la fin. Et puis, la coiffe qui se relève. Jean-Louis, tu ne pourrais pas changer d'air, non? Celui-là me ferait plutôt.